Chers auditeurs, avant d'aborder la vie du peuple chrétien au diocèse de Bayonne en ce début du XVIIIe siècle, nous allons évoquer rapidement un problème qui concernait, il est vrai, davantage la Basse-Navarre et qui trouva sa solution précisément à cette époque. Les difficultés dataient de la partition de la Navarre en 1512. Jusque-là, le monastère de Roncevaux s'occupait sans histoire de gérer ses biens en Basse-Navarre et de nommer aux paroisses qui étaient de son ressort, par exemple Saint-Jean-Pied-de-Port. De même, dans les anciens archiprêtrés qui dépendaient de Bayonne, l'évêque et le chapitre recueillaient tout naturellement les revenus qu'ils y possédaient. Mais les guerres incessantes qui furent la conséquence des événements de 1512 allaient compliquer les choses et on peut dire que la coutume, pour ainsi dire, s'établit qu'en temps de guerre, chacun se vengea sur son territoire en s'en prenant au bien que l'adversaire y possédait. Ce jeu, si l'on peut s'exprimer ainsi, assez lamentable, est devenu d'ailleurs insupportable aux deux parties, eut son épilogue le 12 février 1712 grâce à un accord signé, après bien des tractations, au palais épiscopal de Bayonne par les délégués des chapitres de Roncevaux et de Bayonne, accord qui sera appelé le contrat d'échange. Selon ces dispositions, Roncevaux renonçait à tous ses droits sur les possessions banavaraises, y compris Arnegui et Ondarol, la dernière en date des difficultés surgies entre les deux parties. En retour, l'évêque et le chapitre de Bayonne renonçaient à leurs revenus de Haute-Navarre, avec cependant une restriction importante. L'évêque de Bayonne n'entendait nullement renoncer à sa juridiction spirituelle sur des lieux qui appartenaient au diocèse de Bayonne, juridiction que l'évêque de Bayonne, selon les termes de l'accord, n'entend et ne peut aliéner ni échanger en quelque façon et manière que ce soit. Ce contrat mit donc fin à tous les différends entre le monastère de Roncevaux et le diocèse de Bayonne. Mais les habitants d'Ondarol, un quartier actuel d'Arnegui, séparé de Valcarlos par un simple ruisseau faisant frontière internationale, continuèrent, et continuent toujours, je crois, de se considérer comme paroissiens de Valcarlos et donc diocésains de Pampelune. Pendant ce temps, dans les paroisses du diocèse, la vie continue sur le même rythme. Les jours se suivent et se ressemblent. Sauf cependant lorsqu'un événement important est annoncé, en particulier la visite pastorale de l'évêque, car les évêques de Bayonne sont fidèles aux devoirs que le Concile de Trente leur a rappelés. Ces visites se déroulent selon un rite bien précis et vite bien rodé. Réception par le curé et par le peuple rassemblé devant l'église. On commence par la prière pour les morts, le plus souvent au cimetière adjacent, ensuite, à l'intérieur de l'église, adoration du Saint-Sacrement, inspection du tabernacle, des divers autels, des fonts baptismaux, des confessionnaux, de la sacristie. La cérémonie se termine par la confirmation des enfants auxquels se mêlent parfois des adultes. Monseigneur évêque s'adresse au peuple rassemblé dans l'église, ou du moins voudrait s'adresser, car il y a la difficulté de la langue. Dans le compte-rendu de la visite de Saint-Jean-Pied-de-Port, il est dit que c'est le curé lui-même qui doit expliquer le pourquoi de la visite de l'évêque, le peuple, est-il précisé, n'entendant pas la langue française. Habituellement, c'est le vicaire général qui parle à la place de l'évêque, et certains comptes-rendus nous révèlent que le peuple intervenait parfois pour dire s'il était content ou non de son curé. À la fin de la visite, un procès-verbal est rédigé et signé sur place et une ordonnance va suivre qui indiquera au curé et au conseil de fabrique ce qu'il convient de modifier ou de renouveler. Sur le plan religieux, l'évêque ne manque pas de souligner quelques déficiences, par exemple dans l'instruction des enfants à Istulitz et à Saint-Blaise d'Apat Hospital, où le curé est invité à faire aux enfants le catéchisme de 15 à 15 jours. En 1737, à Urugne, des paroissiens s'entêtent à vouloir maintenir des fêtes chômées supprimées par les évêques précédents. C'est également, et je crois surtout, aux objets du culte que s'intéresse l'évêque, surtout à la propreté des linges et des ornements, mais aussi au mobilier, en particulier à la balustrade. Ainsi est désigné ce que nous appelions naguère la Sainte Table. Beaucoup d'églises n'en ont pas. Or, nous sommes dans la contre-réforme. Il faut bien distinguer et séparer les prêtres et les fidèles dans la célébration de l'Eucharistie. Et puis, c'est la dévotion à la présence réelle qu'il faut promouvoir. Le retable est le lieu le plus approprié pour l'exposition du Saint-Sacrement. Avec toutes les statues de saints qui le composent, c'est l'Église du ciel qui se joint à celle de la terre pour adorer le Christ vivant dans l'hostie sainte. Alors, il faudra, par exemple, que M. le curé d'Irissari et son conseil de fabrique pensent à mettre une balustrade, à repousser l'autel contre le mur et à lui adjoindre un retable. Soulignons en passant que ce qui s'est fait dans nos églises après Vatican II rejoint ce qui existait avant le Concile de Trente. Il y a bien dans la vie de nos paroisses quelques incidents. Par exemple, à Gamarthe, M. de Lacar, patron de l'église, prend injustement ce que l'on donnait à la Benoîte. À Saint-Jean-le-Vieux, on n'a plus le registre des obis, des fondations de messe. Les héritiers du curé précédent l'ont emporté. Le souci et le soin des écoles revient également dans ces comptes rendus. Ainsi, une des préoccupations de Mgr de Bellefond, c'est que les régents d'école, Rientac, soient assermentés. Par ailleurs, les sages-femmes le sont rarement et l'évêque le déplore. Quant à la vie quotidienne des fidèles, leur démarche religieuse, les comptes rendus ne l'envisagent pratiquement pas. Mais on peut imaginer que les consignes des statuts synodaux de Mgr Dols sont toujours en vigueur et efficaces, et qu'on est attentif à faire du dimanche, surtout de la messe solennelle, un temps fort de la pratique chrétienne. Il y a également les moments importants de la vie des familles. Nous avons dit l'importance du mariage de l'héritier. La tradition et les exigences de l'Église s'allient pour lui donner une solennité particulière. Mais le décret sévère de Mgr Dols n'a pas mis fin à la cohabitation juvénile. Cependant, le moment le plus important, le plus solennel de la vie pour le Basque, c'est la mort. Elle est entourée de rites contenus dans un coutumier très ancien et que l'Église a peu à peu évangélisé. Dans les paroisses du Labour et de Basse-Navarre, le culte des morts a une très grande importance. On croit à la communion des saints, à l'efficacité de la célébration eucharistique pour le soulagement des âmes du purgatoire. En témoigne le nombre des fondations et d'obis dans les paroisses, ce qui exige et justifie un nombre important de prêtres. La prochaine fois, nous parlerons de l'action pastorale d'un prêtre de notre diocèse, l'abbé Jean Daguerre, dont l'influence fut très grande au Pays Basque.